Au fond, si on mêle ce qu'a dit François Bourguignon et ce qu'a dit Pierre Jacquet, on trouve du travail pour le CEPI. En effet, François Bourguignon a insisté sur le 0,7. Or, le 0,7 est un chiffre mythique, mais qui ne veut rien dire aujourd'hui. Et je crois qu'il est dangereux de baser des politiques sur un mythe qui n'a plus de fondement, sauf de donner un objectif. Et je pense que ça vaudrait la peine de recalculer aujourd'hui ce qu'il faudrait, non seulement pour maintenir des politiques de développement dynamique, et y introduire ce que nous a suggéré Pierre Jacquet, la mise en place des biens publics mondiaux ou la préservation d'un certain nombre de biens importants pour l'ensemble de l'humanité. C'est un beau calcul à faire. Sachez simplement que le 0,7 a été calculé sur un coin de table à la fin d'une conférence et n'avait déjà pas grande valeur économique. Alors, je ne veux pas qu'on rejette un objectif chiffré d'aide, mais je voudrais qu'on lui redonne de la force. Nous avions envisagé de dire deux mots sur le commerce. Est-ce que... Oui, vous avez... François, allez, vous aviez des choses à dire.
Oui, alors je ne veux pas du tout monopoliser la parole, plutôt laisser la parole à la salle. Non, je crois que simplement il faut bien voir que dans les rapports entre les économies développées, les économies émergentes, les économies pauvres, moins avancées, l'aide au développement est l'une des dimensions, ce n'est pas la seule, il y a d'autres dimensions. On peut affecter la distribution mondiale des revenus par l'intermédiaire du commerce, certainement, et par l'intermédiaire de toutes les mesures que l'on peut prendre pour favoriser certains flux commerciaux et éventuellement handicaper d'autres flux commerciaux. Le cycle de négociation de Doha a reçu le titre de cycle du développement. On est quelques années plus tard après le lancement du cycle. On sait que les choses sont à l'heure actuelle un peu en surplace. Pascal Lamy était là ce matin, il a pu en dire certainement beaucoup plus que moi. Et simplement ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'il s'agit d'un enjeu, selon François. L'intégration des économies les moins avancées dans les flux mondiaux d'échange, dans la mondialisation, est quelque chose qui est primordial si on veut que le développement ait lieu, si on veut même que l'aide au développement dont on vient de parler soit véritablement efficace et conduise à une véritable croissance. Alors ça passe par peut-être une nouvelle réflexion sur les accords préférentiels. Ça passe peut-être par une réflexion en profondeur sur, par exemple, les accords de partenariat économique que l'Union européenne a lancés. Ça passe certainement par une réflexion sur la façon dont l'aide peut permettre d'améliorer l'infrastructure, les conditions commerce extérieur dans beaucoup de pays, mais il s'agit de quelque chose d'un point de réflexion qui ne peut pas être reculé indéfiniment.
Je mettrai là, c'est que dans l'échelle des priorités sur l'intégration, il me semble que ce qui concerne les politiques commerciales et notamment d'ailleurs le système commercial international n'est pas au top des priorités. Et peut-être l'un des problèmes de la période récente, c'est qu'on a renversé un peu cette échelle des priorités. La priorité première pour un grand nombre de pays africains, c'est les infrastructures pour que le commerce soit possible. C'est la capacité de mettre les produits aux normes qui feront que ces produits pourront avoir accès sur les marchés internationaux. Et c'est prioritaire probablement avant l'étape de l'accès bureaucratique au marché, si vous voulez, ou l'accès administratif au marché. Les barrières que représentent l'insuffisance des infrastructures ou que représentent la difficulté de se mettre aux normes de sécurité, aux normes sanitaires, etc., est probablement une barrière bien plus forte pour un grand nombre de pays pauvres en termes d'accès au marché que les mesures de politique commerciale. Donc je voudrais qu'on n'oublie pas cette dimension qui me semble essentielle et qui fait le lien entre le commerce et l'aide au développement. Et pour terminer, je voudrais dire que Je crois qu'il ne faut pas qu'on ait plusieurs cases, avec une case aide au développement, une case commerce, une case migration, etc. Je crois qu'il faut que peu à peu, on arrive à construire des politiques de développement. Ces politiques de développement ne concernent pas seulement les pays en développement. Il se trouve que nous y avons un intérêt, que ce soit un intérêt en termes de charité éthique, mais aussi un intérêt bien compris en termes d'enjeux de la mondialisation. Et ces politiques de développement, elles doivent nous amener à avoir une approche intégrée entre les dimensions financières, les dimensions commerciales, les dimensions migratoires, etc.
Comme l'a dit Pierre Jacquet, il est nécessaire de voir les politiques de développement dans un cadre plus large d'insertion des économies des pays en développement dans l'économie mondiale. Donc, cela nécessite un meilleur accès au marché des biens et services, au marché des capitaux, et également au marché du travail. Donc là, j'en reviens aux politiques migratoires. Et donc, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de revoir ces politiques migratoires dans une perspective de politique de développement? On sait que les migrants favorisent, via les réseaux, l'accès au marché des biens et services, donc favoriser l'échange, que les transferts de capitaux des migrants sont en commune mesure avec l'aide publique au développement. Et est-ce qu'il ne serait pas plus facile également de vendre dans les opinions publiques en Europe des politiques migratoires moins frileuses si justement on les envisageait dans le cadre de politiques de développement? C'est déjà ce qui se fait un peu, il me semble, dans certains pays. Merci.
Je vais peut-être dire un mot là-dessus. Non, effectivement, les politiques migratoires sont certainement à considérer parmi le jeu des politiques qui doivent avoir une certaine cohérence en termes de développement. Mais s'agissant des migrations, je crois qu'il faut faire un petit peu attention de ne pas mélanger les différents flux qui ont lieu. Les flux d'aide au développement n'ont rien à voir avec les flux de remise de salaire de la part des migrants. De la même façon que les flux d'aide au développement n'ont rien à voir avec les flux de remise des exportations. Qu'est-ce que c'est que des flux de remise de salaire de migrants ? C'est simplement une exportation un peu particulière dans laquelle, au lieu d'exporter des biens fabriqués sur place, on a exporté la main-d'œuvre qui a travaillé à l'étranger, produit de la valeur ajoutée, et par cette valeur ajoutée est rapatriée. Alors, je parle tout à l'heure de la relation entre aide au développement et commerce. Ce qui compte, ce n'est pas les flux de commerce, ce n'est pas les flux d'importation et d'exportation. Ce qui compte, c'est les flux de revenus supplémentaires ou de revenus qu'on manque dû au fait qu'on est en train de mettre des entraves au commerce extérieur. Et dans le domaine migratoire, c'est exactement la même chose. Ce qu'il faudrait regarder, c'est la mesure dans laquelle des politiques restrictives d'entrée dans un certain nombre de pays développés modifient le revenu, modifient la capacité d'un certain nombre de pays éventuellement exportateur de main-d'œuvre à se développer dans le futur. C'est un concept qui est très différent de celui de revenu en termes de remise de salaire.
Monsieur,
merci. Ancien collaborateur ici. Je suis resté un peu sur ma faim en ce qui concerne l'aspect économique, c'est-à-dire la spécialité du CEPI dans ce débat sur sur l'aide au développement, et j'aimerais bien que quelqu'un des panélistes pourrait s'exprimer sur pas seulement l'efficacité en termes de centralisation, c'est pas tout, j'imagine, et c'est même pas la première considération, mais sur l'effet économique, social dans les pays auxquels on adresse cette aide. Après tout, la centralisation, c'est un peu une chimère, et alors qu'on ne peut pas prouver que l'aide centralisée soit plus efficace en termes d'effet de développement que l'aide décentralisée. Justement, l'essor de l'aide décentralisée et des fondations, comme par exemple, parmi d'autres, la Fondation Frédéric Ebert, pour laquelle j'ai travaillé en passé, la cause pour cet essor a été les défaillances, les insuffisances de l'aide centralisée État à État. Donc, je crois qu'il y a aussi peut-être quelque chose à redire pour prouver que, effectivement, une centralisation apportera quelque chose de bien. Il y a peut-être un dernier point qui m'intéresse, qui est économique aussi, la flambée des prix agricoles. Est-ce que ça apporte quelque chose à la situation des pays en développement, avec des populations agricoles importantes, pour lesquelles, par le passé, on a dit que les importations agricoles à bas prix a détruit, a réduit les chances de développement. Est-ce que la montée des prix agricoles leur apporte quelque chose? Merci.
Attendez, peut-être il y a une dernière question, monsieur.
Jean-Paul Blesquier, éditeur. Juste tout récemment,
c'est bon. Tout récemment, le président du Sénégal, Ouad, avait déclaré « Ce n'est pas notre problème l'argent, nous avons trop d'argent, mais nous n'avons pas de projet. » Il a même ajouté qu'il y avait plus de 50 milliards de dollars qui attendaient une utilisation et qu'au niveau de l'Afrique, personne n'élaborait des projets. À la différence des Chinois, quand ils arrivent en Afrique, ils disent non seulement ils nous apportent de l'argent, mais ils nous apportent la main d'œuvre et les projets.
Sur les deux questions.
Bon, moi, je pense en effet que vous avez raison de ramener le thème de l'efficacité à l'économie, mais je crois que personne n'a dit qu'il fallait centraliser. C'est-à-dire que lorsqu'on regrette l'excès de fragmentation de l'aide, c'est plutôt en termes de coûts de transaction que la question se pose. Par exemple, je crois que de façon imagée, on entend souvent l'argument qu'on sait dire dans tel pays, il y a plusieurs centaines de missions de bailleurs de fonds par an. Tout ça prend du temps, des ministres des Finances que chacun veut aller voir, etc. Et je crois que c'est une réalité de profond, ce désordre qui a des coûts, en fait, des coûts de transaction, et donc il ne sort pas nécessairement l'efficacité au sens auquel vous l'entendez, qui est l'efficacité économique. Alors, là-dessus aussi, je crois que sur l'efficacité économique, l'un des enjeux, c'est d'arriver à mieux comprendre la chimie du développement. Quand on fait le lien entre les montants d'aide versée puis le taux de croissance économique, c'est pas très convaincant comme approche parce que il y a tellement d'autres facteurs qui interviennent que l'aide au développement et donc nécessairement notre objectif doit peut-être que in fine on souhaite tous contribuer à la croissance économique, mais concrètement le souci est de débloquer un certain nombre d'obstacles à la croissance tels qu'on peut les percevoir ou tels qu'ils sont perçus par nos partenaires à un moment donné. Donc l'aide est nécessairement plus ciblée, ce qui m'amène d'ailleurs à revenir sur ce qui était connu dans la littérature comme étant le paradoxe micro-macro. Je crois que ce paradoxe reste entier. Quand on regarde l'aide au plan microéconomique, la plupart des résultats sont très encourageants. On a envie de dire oui, c'est efficace. Simplement, cette efficacité ne s'agrège pas au plan macroéconomique. Il manque la sauce qui peut faire prendre tout ça et transformer les différents projets en croissance, tout simplement parce que la part de l'aide est très minime par rapport aux flux d'épargne nationaux, par rapport à l'organisation locale, etc. Les prix agricoles, oui, vous avez raison, ça devient un sujet majeur, d'autant plus qu'il commence à y avoir concurrence entre les productions agricoles alimentaires et les productions agricoles énergétiques. Je crois que ça a amené un certain nombre de bailleurs de fonds, dont la Banque mondiale et les bailleurs bilatéraux, à constater qu'on n'avait peut-être pas assez investi dans l'agriculture dans les périodes récentes. Et donc le thème de l'agriculture revient en force dans les secteurs prioritaires de l'action internationale ou de l'action des fondations. Vous avez par exemple la fondation Gates qui a été mentionnée tout à l'heure, qui a un grand programme qui s'appelle AGRA, qui vise à promouvoir le développement agricole de l'Afrique. Nous nous intéressons nous-mêmes à de nouvelles idées en termes d'agriculture qui détiennent un potentiel de nouvelles révolutions vertes, notamment ce qui a trait à l'agroécologie, qui est une nouvelle méthode de culture extrêmement, extrêmement féconde en termes aussi bien de fertilité des sols que de préservation de l'environnement, que de préservation des sols. Et donc je crois qu'il y a des tas de pistes qui méritent d'être explorées et qui vont l'être. Quant à l'article de M. Watt dans le Financial Times, je crois que tout ça illustre ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a aujourd'hui de multiples acteurs de l'aide au développement. L'un des enjeux pour les pays de l'OCDE qui ont finalement construit en plusieurs des décennies une certaine vision des besoins de coordination entre eux, des besoins d'harmonisation, certaines disciplines, notamment concernant l'aide liée. Je crois qu'aujourd'hui, ce que nous avons appris peut être remis en cause par la concurrence de pays donneurs qui n'ont pas cette même histoire et qui donc ne sont pas liés par les bonnes pratiques que nous avons mis encore des décennies à construire. Donc l'un des enjeux que nous avons aujourd'hui très concrètement, c'est de convaincre que ces bonnes pratiques que nous avons construites sont la voie vers l'efficacité et que l'action d'autres donneurs qui ne les respectent pas sera moins efficace. C'est un véritable enjeu et on peut même se poser des questions sur l'évolution de ce que nous devons faire en matière.
Merci, je crois que vaincu par l'article de M. Ouad, je crois que importer de la manœuvre qui fait le travail à la place des Sénégalais et dire que l'Afrique n'a pas de projet, c'est doublement mauvais. M. Ouad avait été à l'origine du NEPAD il y a 5 ans, et le NEPAD disait « Nous avons beaucoup de projets, mais nous n'avons pas de financement. » Maintenant, il dit quelque chose de concret. Je voudrais terminer sur les prix agricoles, ce qui me paraît la question fondamentale pour l'avenir. Effectivement, les prix agricoles augmentent. Ils risquent d'augmenter parce qu'on va être 9 milliards d'habitants au lieu d'être 8. La surface des terres arables diminue. Et les populations qui s'enrichissent diversifient leur consommation. Sous ces 3 facteurs vont entraîner une augmentation sans doute relativement durable des prix agricoles. Mais la question est comment va-t-on nourrir l'humanité d'ici 20 ans ? Et on a le choix entre 2 tendances. Une qui est de dire le seul moyen c'est d'augmenter les rendements, bien sûr, dans tous les cas, il faudra augmenter les rendements. Une manière va être de faire appel à l'agro-industrie pour le faire. Et l'augmentation des prix agricoles, l'augmentation des prix des terres actuellement va dans ce sens, va conforter et entraîner de plus en plus l'agro-business. Ce qui veut dire que l'on mettra à la rue des millions, des centaines de millions de petits paysans. Et que donc on va se trouver face à un problème absolument dramatique d'emploi et de moyens de survie pour ceux qui vivaient de la terre. L'autre perspective serait de faire que les petits paysans augmentent leur productivité, mais là, à la fois au niveau de la recherche et au niveau de la diffusion de techniques, on a pris beaucoup de retard au cours des 20 dernières années, et je suis content que la banque ait enfin changer la priorité qu'elle ajoutait à l'agriculture.
Je crois qu'il est un peu trop tard pour reprendre le débat sur l'agriculture. Je ne suis pas tout à fait personnellement d'accord avec ce que vous venez de dire, mais je ne peux qu'encourager tout le monde à lire cet excellent rapport qui a été publié en septembre dernier par la Banque mondiale sur l'agriculture et le développement, qui effectivement réparait une lacune qui a duré trop longtemps.
Je crois que